Vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs, une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
Un invité.
Son témoignage.
Son parcours.
Son expérience.
Des chroniques.
Géopolitique.
Juridique.
Linguistique.
Bonjour. Dans cet épisode de notre émission, nous allons rencontrer deux personnes, Henri et Jacques, qui vivent à Kray et qui viennent de la République démocratique du Congo. Dans la première partie de l'émission, je vous lirai un témoignage que j'ai reçu de Hugo, qui vient également de la RDC. Il ne vit pas dans la Drôme, mais son témoignage m'a beaucoup touchée et c'est pourquoi je voudrais vous le partager avec vous. Dans le studio aujourd'hui, il y a Claire, Sylviane, Christina à la technique et moi-même Sarah, avec nos deux invités, Henri et Jacques. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, avant ce témoignage, l'un de nos invités nous a demandé de passer une prière que je vous laisse écouter.
Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi dans la douleur et la détresse, les larmes de notre peuple s'écoulant comme des rivières dans un désert aride. Regarde avec compassion sur le Congo, une nation déchirée par la violence, la souffrance et le génocide. Au milieu de cette obscurité, nous cherchons ta lumière pour guider notre chemin. Père miséricordieux, regarde vers ton peuple souffrant au Congo. Les cris de douleur des innocents résonnent dans les cieux, implorant ta justice et ta protection. Que ta main puissante intervienne pour arrêter le flot de violence, pour calmer les tourments et pour restaurer la paix et la stabilité dans cette terre troublée. Donne à nos dirigeants la sagesse et le courage nécessaires pour œuvrer pour le bien de tous, pour rechercher la réconciliation et la compréhension mutuelle plutôt que la division et la haine. Ouvre les cœurs à la compassion et à la tolérance et éclaire les esprits avec la vision d'un avenir meilleur pour chaque Congolais. Que ton Esprit Saint descende comme une colombe sur notre nation meurtrie, apportant réconfort aux affligés, guérison aux blessés et espoir aux désespérés. Que ta paix qui dépasse toute compréhension remplisse nos rues et nos foyers, éradiquant toute trace de violence et d'injustice. Seigneur, nous te supplions de mettre fin au génocide au Congo. Que ton amour triomphe sur la haine, que ta lumière dissipe les ténèbres et que ta justice règne pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Libérateur, nous levons cette prière. Amen.
Je m'appelle Hugo. Je viens de la République démocratique du Congo, qui est l'ancien Zaïre ou Congo belge, à ne pas confondre avec le pays voisin, la République du Congo-Brazzaville. Je suis né à Kinshasa, d'une famille de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. J'ai fait mes études au petit séminaire de jésuites Saint-Joseph, latin, philosophie, grec. Mon père fut militaire de la FARDC, ma mère fut sage-femme. C'est en août 2023 que nous avons voyagé au Nord Kivu, où mon père avait été muté. Le Nord Kivu est une province administrative qui est composée de 22 territoires. C'est dans cette région qu'il y a la guerre, génocide et la majeure partie de la richesse du sous-sol se trouve dans cette province. En effet, la RDC, c'est le deuxième pays le plus grand d'Afrique, 4 fois la France et 80 fois la Belgique. Il a une superficie de 2 344 860 km². Le nombre d'habitants est de 95 894 118 habitants. Sa devise, justice, paix, travail. Son hymne national, Debout Congolais, et sa capitale, Kinshasa. La RDC possède 4 langues nationales, Kikongo, Tsiluba, Swahili, Lingala, et sa langue officielle, le français. Mon pays s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est un des plus grands domaines de forêt équatoriale au monde. Il a des montagnes, des collines, mais aussi des volcans. Le Congo est victime de son sous-sol ou richesse naturelle depuis 1994. Il est le deuxième pays le plus riche de la planète en ressources naturelles. Et pourtant, et malheureusement, les peuples congolais de mon pays est parmi le plus pauvre du monde. Comment concevoir cette réalité? Comment est-ce possible? Un pays immensément richissime doit-il être classé parmi les pays les plus pauvres? Quel est le pourquoi de cette pauvreté? La réalité de ce problème, troublante et blessante, est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, pétrole, diamant, gaz, cuivre, cassitérite, coltan et cobalt, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les ordinateurs, les smartphones, etc. Ces objets contiennent des minerais qui viennent de la République démocratique du Congo. En conduisant votre voiture électrique, en admirant vos bijoux, en utilisant vos ordinateurs, téléphones et autres, réfléchissez un instant aux coûts, aux massacres, aux viols, aux violences, aux tueries inhumaines à la fabrication de ces objets. S'il vous arrive de vous poser la question sur le pourquoi de ce silence face à ce génocide, savez-vous que les téléphones que vous utilisez contiennent du sang des enfants innocents, femmes et garçons, congolais, tués pour que vous et moi ayons ces objets? Cela fait 30 ans que la partie est de la République démocratique du Congo est victime de la violence, de génocide et de guerre. La violence est cruelle. Les rebelles appliquent la violence même aux enfants de 5 et 8 ans. Les filles, les femmes, les garçons sont cruellement violés par les rebelles de M23, souvent en introduisant des bâtons durs et plastiques brûlants dans leur appareil vaginal. Et certains garçons même sont forcés de faire partie du groupe rebelle et d'autres encore sont décapités. Je vous épargne les détails. Chose grave, depuis 1994 à nos jours, il y a eu 12 millions des innocents congolais cruellement tués à l'Est. Un nombre qui dépasse celui de la Première Guerre mondiale, qui est de 10 millions. Le génocide du Congo est incontestablement incontestable, selon l'ONU. Et pourtant, un génocide dont certains n'ont probablement jamais entendu parler. C'est le conflit le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale, selon les Nations Unies. Alors pourquoi n'en parle-t-il pas? Pourquoi le média du monde se tait et enterre-t-il la vérité? Pourquoi ne veut-il pas que le monde sache la vérité? Pourquoi ferme-t-il les yeux face à ces massacres? Car fermer les yeux et rester silencieux face aux drames, viols, massacres et guerres, c'est être complice. Car les peuples congolais sont humiliés, maltraités, massacrés, dévalorisés depuis 1994 à nos jours, au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que j'ai eu la chance d'échapper à tous ces massacres. Je suis profondément touchée par l'indifférence, offusquée par le silence et la méconnaissance de la situation cruelle et violente de mon pays. Lorsque je pense aux nombreuses personnes qui sont mortes sous mes yeux, à mes parents assassinés par les rebelles de M23 rwandais, à mes deux sœurs et un frère enlevés, je ne cesse de dégouliner au plus profond de moi des larmes de douleur. J'ai perdu des êtres très chers, des repères pour mon avenir, des personnes pour m'aider à grandir intellectuellement, moralement, religieusement. Le peu de temps avec eux m'ont permis d'acquérir les bonnes valeurs, le savoir et le chemin de l'éthique. Mon cœur se trouve dans la profonde douleur parce que j'avais un projet de continuer mes études et voir toute ma famille. Malheureusement, la situation cruelle a chamboulé tout mon projet de vie. Je n'ai jamais souhaité et imaginé qu'un jour je me retrouverais à subir cette situation. Je sais qu'il est dur pour moi de digérer ce problème, de vivre comme quelqu'un qui est tombé du ciel, ni père, ni mère, sœur et frère. Malgré cette situation, je continue d'avoir le sang froid, continuer d'espérer et revêtir du courage à la poursuite de la vie qui m'est présentée sur cette nouvelle terre. Ainsi, je tiens vivement à remercier tous les Français qui m'ont accueilli, qui continuent de m'aider et me soutenir pour remonter lentement et sûrement le moral. Par vos conseils de chaque jour, j'adviens à rester persévérant, patient, courageux et fort. Voilà le témoignage que j'ai reçu de Paris, d'une association parisienne, où ce jeune Congolais qui s'appelle Hugo vit et aide cette association à aider d'autres personnes sur place. Ce témoignage était très difficile. Henri et Jacques, vous venez du même pays que Hugo. Est-ce que vous auriez une première réaction à ce témoignage? Même s'il y a beaucoup d'émotions dedans et c'est difficile témoignage qui est très dur à entendre. Et je suppose encore plus pour vous. Henri, tu veux pas dire quelque chose?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Et le témoignage est tellement dur, comme vous l'avez constaté. Et c'est la réalité actuelle qui se passe dans mon pays. Et la situation est vraiment dure. Les personnes sont cruellement tuées, sont cruellement violées. Et ce qui m'inquiète beaucoup, aucun média du monde n'en parle. Et c'est la chose la plus grave. J'ai l'impression comme si mon pays est en fait négligé, le pays n'est pas connu au vu de tous. Et je pense que ces témoignages seraient une bonne information, surtout pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la République démocratique du Congo et pour ceux qui ne savent pas réellement ce qui se passe au pays.
Jacques, tu veux faire une réaction à ce témoignage?
Oui, merci quand même pour la parole. Si j'écoute un peu ces messages à un frère congolais, mon frère, ça me fait pleurer quand même. Donc, je manque mes mots à dire. Merci.
Justement, enfin, Henri, tu disais que les gens connaissaient peu la République démocratique du Congo, et je pense que c'est vrai. En France, on en parle peu. Est-ce que, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, ça serait possible de rappeler un petit peu quelle est l'histoire de votre pays ? Et même la géographie, je dirais, même resituée sur le continent africain, où est la République démocratique du Congo?
Oui, je pense que la République démocratique du Congo, c'est un très grand pays. La République démocratique du Congo a connu la colonisation des Belges. Et nous avons eu des Belges au pays qui ont maltraité le peuple. Et avec le roi Léopold II qui a fait du Congo sa propriété privée, et il a décapité pas mal les gens. Et grâce à Patrice Emerick Lumumba qui s'est imposé de pouvoir sortir les peuples par l'indépendance. Et ce n'était pas, c'était pas facile, parce que imaginez-vous un grand pays comme la RDC et dirigé par un monsieur qui n'a jamais vu le Congo, qui habite Belgique et qui fait du pays sa propriété privée. C'est regrettable et puis c'est touchant, c'est pouvoir vendre le pays. Et je pense que la République démocratique du Congo, comme nous l'avons écouté, comme nous l'avions écouté sur les témoignages, c'est un pays vaste qui est composé de 24 communes et 26 provinces. Et les provinces qui sont réputées de la richesse de la République démocratique du Congo, c'est le Nord Kivu. C'est le Nord Kivu qui possède une immense richesse qui fait un peu la fierté du pays. Malheureusement, la population de ces pays n'en profite pas. C'est d'autres personnes qui viennent exploiter la richesse.
Oui, des gens qui viennent oui. Beaucoup d'Occident.
Beaucoup d'Occident qui viennent mettre la main pour prendre et puis partir et puis créer des troubles et des guerres.
Pour garder la main mise sur les richesses.
Oui, c'est ça.
Et il y a une question qui me traversait l'esprit par rapport justement au fait qu'il y a eu la colonisation belge en RDC, au Rwanda également. Est-ce que les frontières entre tous ces pays africains, est-ce que c'est les Occidentaux, c'est les Belges qui ont fait des frontières? Ou est-ce que ça regroupe effectivement des zones géographiques où des ethnies homogènes étaient dans chaque pays?
Donc moi, je pense que ça regroupe en fait ça regroupe les ethnies. Ça regroupe les ethnies parce qu'avec le Rwandais, nous sommes vraiment tout proches. Il y a quand vous voyez les frontières qui espacent le nord Kivu avec Rwanda, c'est vraiment tout proche. Ils ont des possibilités de pouvoir rentrer parce que c'est pas fermé, ils ont possibilité de rentrer. Et du coup, il y a une liberté totale. Et je pense que les autorités du pays doivent y pensent déjà comment clôturer cet espace-là.
Et avant que les Belges arrivent, il y avait déjà
cette frontière. Déjà. Oui, oui.
C'est une frontière qui existait avant.
Oui, oui.
Pour venir un petit peu à votre histoire à chacun, vous avez grandi où, Jacques, si tu veux répondre peut-être à cette question, de quelle partie du Congo tu viens?
En fait, moi, je suis né au Congo Kinshasa. Je suis né à la capitale de Kinshasa.
Et vous avez grandi là-bas?
Donc, lorsque je dis je suis né à la capitale de Kinshasa, ça veut dire que je suis grandi à la capitale de Kinshasa. Donc, c'est ça.
La scolarité?
Tout que je fais le reste de ma vie, fait ici en France, mais avant mes études et tout, mes primaires et tout, je fais au Congo Kinshasa. Donc, c'est un peu ça.
Et vous avez eu l'occasion de travailler là-bas?
Oui, bien sûr. Pourquoi pas, j'ai été peintre à bâtiment, j'ai été avec toute petite entreprise, j'ai engagé quand même 2 personnes à 3 personnes. J'étais avec un peu quand même, tout un peu entreprise quand même de peinture.
Donc en fait, vous êtes venu en France vers quel âge?
Moi je suis arrivé en France moins de 25 ans.
Autour de moins de 25 ans?
Moins de 25 ans.
Et Henri, vous avez grandi où?
Moi, j'ai grandi à la capitale de Kinshasa. Je suis né en Kinshasa. J'ai pas mal parcouru les provinces de mon pays parce que j'aime plutôt voyager et puis regarder tout ce qui se passe dans les autres provinces. Et je suis allé étudier dans la province du Congo central, qui est Matadi. Il a 360 kilomètres Kinshasa, Congo central. C'est là où en fait que j'ai étudié. Et lorsque j'ai fini mes études, j'ai travaillé un peu. Et lorsque les réalités vitales se sont chamboulées, je me suis retrouvé par l'aide de quelqu'un, un passeur, qui m'a aidé d'arriver jusqu'en France.
Je pense qu'on reviendra un petit peu plus tard sur votre parcours. On va peut-être rester encore un petit peu au Congo pour parler de votre vie là-bas, de ce à quoi vous avez été confronté, parce qu'on parle de la guerre là actuellement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez qui existait déjà quand vous étiez là-bas, que vous avez vécu? Jacques, Henri,
je pense que moi, quand j'étais à la capitale, j'entendais parler de la guerre. J'entendais parler de la guerre puis des moitiés du Congo, précisément au nord Kivu. Et il y a eu aussi des moments de tension et un peu de guerre à la capitale, mais pas tellement à la province. Et lorsque je suis allé moi-même voir la réalité, c'est alors que j'ai compris qu'il y a un problème sérieux au pays.
Pardon Claire.
Parce qu'on peut peut-être juste rappeler, la plupart doivent le savoir, mais entre Kinshasa, qui est tout à l'ouest du Congo, très proche de Brazzaville, de l'autre Congo, et la région du Nord Kivu, c'est immense le territoire. C'est comme ça fait presque, je sais pas, ça fait plusieurs fois la France, peut-être presque l'Europe, je sais pas. C'est vraiment un territoire immense. Donc les conflits qui ont lieu à l'autre bout du pays, vous en entendez parler, j'imagine, comme on vous en parle. Mais avant d'y aller, de les voir, etc., vous n'êtes pas tout à fait en phase avec ces réalités qui, visiblement, sont cruelles quand vous les avez découvertes ou qu'on les vous a racontées. Donc, j'imagine que c'est deux mondes très, très différents aussi pour vous dans vos expériences, deux moments en tout cas, le moment à Kinshasa pour vous et le moment où vous pouvez avoir les récits ou de voir les différentes provinces et de vivre le conflit.
Oui, moi je pense que c'est une très bonne hypothèse que vous avez soulevée. Et vivre la réalité et puis entendre ce qui se passe, c'est deux choses en fait différentes. Parce que en Kinshasa, nous attendons tout ce qui se passe là-bas. Mais vivre la réalité, partir sur les lieux, c'est tout à fait différent. Parce que moi, lorsque je suis allé au nord Kivu, je vous dis, j'étais terrassé par terre de voir tout ce qui se passe là-bas. J'entendais, mais lorsque j'ai vu sous mes yeux, ça m'a beaucoup touché. Non pas physiquement, mais aussi moralement et psychologiquement. Les femmes sont violées. Les enfants, même de 5 ans, même de 3 ans, elles sont victimes de viols, y compris les hommes. Et malheur aussi pour les hommes, parce que lorsque on vous arrête, vous êtes obligé de faire partie de l'armée rebelle. On vous maltraite. On vous envoie faire des choses inacceptables. Et tout cela, c'est à cause des recherches des sous-sols. Et du coup, Rwanda n'est pas un pays tout seul qui manigance toutes ces violences. Il y en a d'autres qui sont derrière, qui financent même les armes. Et nous avons aussi l'autre pays qui est tout proche de la Rwanda, il y a l'Ouganda, qui s'infiltre aussi au Rwandais pour attaquer les pays. Et tout cela, lorsque je suis allé dans la province, j'ai vu, c'était catastrophe. Et je me suis dit, en fait, les pays doivent être sérieux. D'abord, les pays doivent être sérieux pour pouvoir mettre fin à cette guerre.
Mais comme vous dites, le Rwanda n'est pas tout seul. Et on a pu le voir dans l'actualité récente que les pays occidentaux soutiennent beaucoup le Rwanda aujourd'hui. Alors que les Nations Unies reconnaissent qu'effectivement, c'est un génocide, comme le disait Hugo dans son témoignage.
Je pense que là aussi, peut-être je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Il y a dernièrement, l'Union, je ne sais pas quel pays qui a fait les accords avec la Rwanda pour avoir des mines. Mais posez-vous la question.
C'est Pologne.
La Pologne.
Ouais. Posez-vous la question. Rwanda, c'est un petit pays. C'est un petit pays, Rwanda. Il ne peut pas se tenir à la RDC. Et puis, il ne possède pas la richesse. Il n'a rien, Rwanda. Il n'a rien. Mais comment concevoir un tel pays qui n'a ni richesse de sous-sol, mais qui estime être les grands et puis exploiter les richesses qui ne l'appartiennent pas? C'est inconcevable. Donc, tout cela, si on voit très bien les réalités, les choses, comment est-ce qu'elles se passent, c'est-à-dire que Rwanda n'est pas tout seul. Il y a un bon nombre de personnes qui les soutiennent pour exterminer cette partie-là, éliminer les peuples pour s'approprier de la terre. Donc c'est en fait ça le problème qui se passe là-bas. Parce que si Rwanda n'était que le seul pays de pouvoir amener la guerre au Congo, je pense qu'il ne s'en sortirait pas. Mais puisqu'il a un appui derrière lui, voilà pourquoi il se montre fort.
Oui, bien sûr, c'est un peu ce qu'on retrouve dans beaucoup de combats géopolitiques où un territoire devient le lieu d'un conflit géopolitique bien plus large que ce qui se passe vraiment que sur le territoire, et on le voit encore aujourd'hui au Moyen-Orient, etc.
Oui, je pense qu'on peut, je peux un peu clarifier sur les conflits. Jadis, on parlait du conflit d'ethnie. Ce n'est plus le conflit d'ethnie. C'est maintenant le conflit
économique,
le conflit du sous-sol, le conflit minier, tout ça. Ce n'est plus le conflit d'ethnie. Mm-hmm. Parce que nous avons maintenant compris le problème des Rwandais. C'est quoi? c'est les mines, c'est la richesse du Congo qu'ils veulent.
Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ils n'ont pas de richesse.
Ils n'ont
leur
pas
sous-sol.
De richesse, non. Rwanda n'est rien. Le président Kagame, vous m'excusez, c'est un fou. Il ne connaît absolument rien. C'est un monsieur petit, mais qui se montre grand, mais alors qu'il n'a rien.
Oui, mais par contre, il y a un certain nombre de Rwandais qui vivent sur le territoire du Congo, puisque suite au conflit, au génocide rwandais, le Congo a accueilli un certain nombre de Rwandais. Mmh. Donc ces personnes-là vivent depuis une, deux générations. Ils sont quand même installés. Ils font partie, mine de rien, aussi des réfugiés ou des Congolais maintenant. Et donc, de fait, ils sont sur ce territoire-là. Et en plus, ayant été un petit peu soutenus, effectivement, là, ils se sont appropriés des mines. Et là, maintenant, ça pose souci. Mais le but, c'est pas non plus de renvoyer tous les Rwandais chez eux. Et oui, moi, ça m'interroge, en fait. Je me demande, est-ce qu'on peut, effectivement, se réapproprier les richesses du Congo pour le Congo, mais à la fois, il y a tout un ensemble de Rwandais qui sont là en tant que peuple et de réfugiés qui vivent là depuis une ou deux générations. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Voilà.
Oui, je vis qu'il t'a rentré avec un peu l'intelligence de Paul Kagame. Sagesse de Paul Kagame, c'est ça. Les Paul Kagame suivants, ils disent comme ça. Nous, on n'a pas de problème avec les Rwandais.
D'accord.
Les peuples congolais, d'un pays des Congolais, qui reçoivent beaucoup d'étrangers, depuis que nous sommes nés, nous attendons l'histoire du Congo, on le sait. Hein. Même si je ne sais pas beaucoup, mais je suis un Congolais, on se connaît très bien. Mmh. On est un peuple comme un Français, hein, comme des Français. Hein. Moi, ici, je suis en France. Hein. Je peux dire quoi? Je suis un migrant. Mais comme des Rwandais qui sont au Congo. Il n'y a pas de Congolais qui a un problème d'un Rwandais.
Oui, ça, c'est important de le rappeler.
Non,
aussi.
C'est ça qui est, voilà. Parce que une sagesse-là, intelligence-là, et le Paul Kagame, qui maintenant, il a commencé à creuser, ce n'est pas ça. Nous, on n'a pas de problème avec les Rwandais. Mmh. On est du peuple, on vit ensemble. Des frontières, comme mon frère congolais il vient de me dire tout à l'heure, il y a des frontières, tu peux passer comme les Genève Suisse. Hein. Et mmh. Genève Suisse, c'est pareil. Lorsque tu as un IMAS, tu peux traverser en Suisse en pied. Hein. Mmh. Mais c'est comme nous là-bas.
Voilà, c'est bien de replacer ça, que oui, le conflit n'est pas entre là et les peuples.
On va le vivre ensemble, les siècles, les assez. Donc là, on se connaît très bien. Les problèmes là, c'est un problème de dirigeants rwandais qu'on a des problèmes. Parce que ça a pas commencé aujourd'hui. Hein. Moi, je suis né, j'entendais toujours qu'il y a des guerres toujours à côté là. Maintenant, le président Tshisekedi, qui est en fonction maintenant de la responsabilité de tous les Congolais, qui a compris tout le jeu. Qui a compris. Là, moi-même, je suis un Congolais, mais je suis comme un opposant. Mais si je le jette quand même des fleurs à M. Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, parce qu'il a compris. La première mandat, il a appelé tous les voisins, tous les pays voisins, les présidents des pays voisins, qui venaient dire, viens, on va négocier, on va vivre ensemble. On va continuer à vivre ensemble, même les peuples, on va continuer à vivre. Mais les problèmes qui les pays, les présidents des pays voisins sont hypocrites. Ils ont signé des accords. Faire les routes et tout.
Ils ont signé des accords avec des entreprises étrangères ou avec,
non, avec, avec leurs voisins. On a signé des accords avec Rwanda. Pour stabiliser quand même notre pays. On peut pas être confus des années. C'est comme Paul Kagame, c'est comme une étiquette. Il vient, il signe un accord, et après, derrière lui, il y a des... Vous connaissez. Je ne peux pas mettre ma langue dans ma poche. Mm-hmm. Vous connaissez, derrière le Rwanda, il y a combien des multinationales. Vous connaissez. On se regarde les yeux dans les yeux, on se connaissait quand même. Donc, il vient, il signe, donc il part à la maison, on te dit pourquoi tu as signé, pourquoi tu as fait comme ça. Et après, il change directement. Et maintenant, il y a des accords. Comment je peux dire? Il vient maintenant, là, il y a encore... il voulait faire des accords encore pour le 2024. Parce que les Occidentaux, ils ont dit non, il ne faut pas faire la guerre, il faut négocier. Lorsqu'on va négocier, on va finir en faire quoi? Des accords. Et dès qu'on va faire des accords, et après, si tu ne respectes pas.
Oui. C'est comme si, là, dans ce que vous pointiez, tout le monde s'organise pour que deux façades, on fait comme si on allait négocier vers la paix, y compris l'Occident qui a l'air de faire des pressions pour faire, pour mettre en place la paix, y compris les différents pays qui mettent en place des accords, etc. Mais selon vous, là, c'est plutôt une façade et on sait bien que tous les jeux et tous les conflits, ils continuent de vrai par derrière et par en dessous, parce qu'on ne les résout pas. Et ça, cette complication-là, elle est due avec ces pressions économiques et tous ces jeux. C'est bien ça ce que vous pointez, hein. Cette différence entre une paix de façade et une guerre qu'on maintient à la racine, parce qu'il y a toujours des conflits économiques en deçà et que c'est ça qui est le plus agissant finalement. C'est ça, hein?
Oui, c'est ça. C'est ça. Et en plus, je peux ajouter, tout à l'heure, toi-même, tu as dit, et moi aussi, je viens te répéter tout à l'heure là, la première mandat de Tshisekedi. Premier mandat, il a pris en 2018, il a assemblé tous les 9 pays voisins, les présidents des 9 pays voisins. Lui-même, il l'a déplacé pour le voir. Pour lui dire, non, on est 9 pays voisins, on peut quand même vivre ensemble. On va continuer. Moi, je peux un jour quitter dans le pouvoir aujourd'hui. Le pays, le peuple, ils vont continuer toujours à vivre ensemble. Pourquoi toujours au Rwanda? Il y a toujours les massacres, il y a toujours les guerres. Mais dites-moi, là maintenant, je le dis, à mon avis, hein, tant qu'un Congolais, on peut les signer, des accords, on peut continuer à signer, il n'y a rien qui va changer. Donc.
Juste une question, alors là, c'est, je ne sais pas, hein, est-ce que vous avez l'impression que là, depuis des années, le conflit s'endurcit ou qui stagne ou qu'il y a quelques améliorations?
Il n'y a rien qui bouge.
Il n'y a rien qui bouge.
C'est, rien.
C'est aussi votre point de vue, hein?
Oui, c'est mon point de vue aussi. Il n'y a rien qui bouge et c'est la même chose. Par contre, la situation s'empire au jour le jour. Imaginez, depuis que la guerre a commencé, il y a 12 millions de morts, 6 millions de femmes violées, 5 millions de personnes déplacées. Au jour le jour, les personnes meurent. Mais aucune personne n'en parle. Et pourquoi? Pourquoi ce silence? Pourquoi se taire face à ces massacres? C'est-à-dire que quand on ne veut pas que le monde le sache, c'est-à-dire qu'on pourrait être complice de tout ce qui se passe là-bas.
Et le gouvernement du Congo, qu'est-ce qu'il fait là dans ce pays du Nord Kivu? Est-ce qu'il intervient?
Le gouvernement du Congo intervient, continue à intervenir, il continue de renforcer. Malheureusement, notre pays n'a pas beaucoup d'objets matériels pour s'opposer contre ces peuples, contre les Rwandais, les M23 qui...
La République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Et il faut du respect. On a fait 18 ans, madame.
Mais 18 ans, est-ce que vous pouvez expliquer? Parce qu'en fait, là, je ne comprends pas 18 ans, de quoi.
18 ans, il y avait de quoi? 18 ans, l'Occidentaux, ils nous ont amené du Kabila. Le fils, c'est un rebelle, c'est un Rwandais. Il a resté dans le pouvoir, 18 ans. Il a tué tout. L'armée.
Je ne mets pas en doute, j'ai juste une question en fait, pour bien comprendre. Il a été au pouvoir où et dans des quelles années, ces 18 ans?
Lorsque M. Mobutu il a quitté le pouvoir, c'était quand? Lorsqu'ils ont amené les Kabila, les pères, avec son fils, avec les Rwandais et tout. Ils ont dit qu'il vient pour libérer le Congo. C'était quand? Et après, dès qu'ils sont arrivés dans le Congo, ils ont tué tout. C'était l'année 97.
En 1997,
oui.
Ça s'est passé.
Ah oui.
Okay.
Entrée de l'EFDEL en 97. Ils ont fait 18 ans. Jusqu'à 2018, le Kabila fils, il a quitté le pays.
Il était à la tête de la RDC.
Ah, mais c'est lui le
jusqu'en
président.
2018.
C'est lui le président.
C'était lui le président.
Ils ont mis les chefs d'état-major rwandais, les services de renseignement rwandais. Et mais dites-moi, on était où? Nous sommes des Congolais, mais qui nous dirigent, qui sont des Rwandais.
Henri, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais un peu rajouter quelque chose à propos. D'abord, répondre à la question qui nous a été posée sur M23. M23, c'est le mouvement du 23 mars. Pourquoi le mouvement du 23 mars? Parce que le 23 mars, il y a eu les accords que Joseph Kabila a signés avec le Rwandais. Et pour revenir au problème du pouvoir, vous connaissez. Il y a eu, après la mort de Laurent Désiré Kabila, on nous a mis comme président le fils de Joseph de Laurent Désiré Kabila. Bon, nombreux estiment et pensent que Joseph Kabila ne serait pas le fils de Laurent Désiré Kabila. C'est un rebelle, ces messieurs-là. Joseph Kabila, c'est un rebelle, c'est un Rwandais. Comment comprendre un Congolais qui ne connaît même pas parler Lingala? C'est un Rwandais, il ne parlait que l'anglais. C'est ce président qui a intensifié les relations avec Paul Kagame en nommant en tête, comme l'a bien souligné, les colonels, les majors, les chefs d'état-major. Un Rwandais en plus. Et c'est ce monsieur-là qui s'est retourné contre le fils Joseph Kabila. Il a coupé toutes les relations qu'il avait avec Joseph Kabila. Il s'est imposé et a créé son propre armée dans les territoires du Nord Kivu et commencé à rebeller contre les pays. Voilà comment les problèmes s'est suscité encore, s'est ressuscité de nouveau.
Les militaires congolais, maintenant, ils commencent à monter à leur puissance. Parce qu'avant, vous connaissez bien, dans l'époque du Zaïre, toute l'Afrique, là, ils ne blaquaient même pas avec du Congo. Vous connaissez bien. C'était les rois Zaïre, les rois du Congo. Maintenant, nous étions genoux pendant 18 ans. Même les peuples maintenant, ils commencent à comprendre l'air jeu de tout l'Occident. Le président Tshisekedi, il a pris le pouvoir en 2018. Il a constaté, comme je t'avais dit premièrement, il a voyagé, il a vu tout le monde, les pays voisins, les 9 pays voisins, les Européens et tout. Ils ont dit, ouais, on ne peut pas vivre comme ça. On est un pays riche. On ne peut pas vivre comme ça dans les guerres et tout. Il faut stabiliser le pays et tout. Mais ils ont poignardé dans le dos. Il a dit, on fait quoi maintenant? Je suis le fils du Congo. Il est né dans la capitale. Moi, je connais Tshisekedi. Je connais son père. Je connais même Tshisekedi lui-même, le fils. Je le connais parce que moi, je suis né à la capitale, dans la commune de Kasavubu. Lui, il est né dans la commune de Limete. Je le connais très bien. Nous sommes les enfants de centre-ville. Donc, j'ai du respect avec lui. Il n'a pas le droit d'échouer. C'est pour cela qu'il est en train de le faire. Tant qu'il a compris, je suis poignardé dans le dos. Qu'est-ce que je dois le faire? Je dois le mettre l'armée en puissance. Il a arrêté des enfants, des jeunes, âgés de 18 ans jusqu'à 24 ans. Maintenant, là, si vous regardez les tenues des militaires congolais, maintenant que le tenue des militaires congolais avant, il y a la différence. Tous les matos, les matériels militaires, pour le moment, je peux le dire, le pays, nous sommes capables maintenant d'affronter tous mes voisins, mais même le Rwanda, nous sommes prêts, nous les Congolais.
Jacques, je propose qu'on passe un petit peu de musique. Après, parce que ça fait pas mal de temps qu'on parle et je pense que
avec plaisir.
Congo, Congo de mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli leopard. Kolo to sekana kina mosolo ya mboka Kongo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali boya kobongisa Kongo aveni ebongi to sala ebongi to sala moto nyoso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mikolo to sekana kina mosolo ya mboka Kongo ekoki to fungwani misolelo Moni bozo banyo soto sali Boya kobongisa Kongo aveni ebongi to sala Moto nyoso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo, Kongo ne mboka Kongo, mboka ya bankoko Kongo, boko mwana pamba, lobi, boko lula yango Kongo, Kongo ya Afrika, Kongo, boka ya kitoko Congo, Congo ya bakoko, Congo, Congo ne mboka.
vous êtes sur Radio Saint-Ferréol 94.2 dans l'émission Ici et d'ailleurs, avec comme invités Henri et Jacques qui viennent de la République démocratique du Congo. Henri, c'est vous qui avez demandé à ce qu'on passe cette musique. Vous pouvez nous en dire deux mots, de la musique qu'on vient d'entendre?
Oui, la musique qu'on vient d'entendre, c'est la langue congolaise qui est Lingala. Et Lingala est beaucoup parlé. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays africains qui veulent bien s'exprimer à Lingala. Il y a beaucoup d'Européens aussi qui aiment bien les chansons Lingala, surtout avec Fally Ipupa, que beaucoup de gens connaissent. Et cette chanson, en fait, exalte la grandeur du pays. Il montre ce que le pays possède comme richesse. Et il montre aussi que la RDC, c'est un pays des ancêtres. Un pays immense qui a commencé avec des ancêtres, qui a commencé avec des grandes personnes, des chefs coutumiers. Et tout ça, ça fait la culture congolaise. Donc, il exalte en fait l'immensité, la grandeur du pays avec sa richesse.
Et justement, cette richesse, parce que tout à l'heure, on parlait des richesses économiques, mais toutes les autres richesses dont tu parles là, est-ce que aujourd'hui, c'est encore présent
en République? Oui, c'est encore présent. C'est pour cette raison qu'il y a des guerres là-bas. Il y a ces richesses-là. Malheureusement, la population du pays n'en profite pas. On n'en profite pas parce que les autres viennent, ils exploitent nos terres, ils sèment la guerre, ils partent et nous ne bénéficions rien. Et derrière tout ça, il y a les sang des Congolais, les sang des innocents, derrière tout ce que nous recevons comme téléphone, comme objet qui favorise la création de tout ce que nous avons. Voilà.
Oui, Hugo le rappelait dans son témoignage qu'on a entendu en début d'émission, mais c'est aussi en préparant cette émission ce qu'on a pu voir, tout ce qui sert à fabriquer les batteries des téléphones.
Cassitérine et cassitérite et coltan, cuivre. C'est l'unique pays du monde qui possède ces richesses. L'unique pays. Aucun pays du monde dira « Non, moi j'ai... J'ai coltan, non. C'est en RDC. Les richesses qui nous aident à avoir les téléphones, les batteries de téléphone, les ordinateurs, comme l'a souligné Hugo.
Ou les batteries voilà, voitures électriques également.
Voitures électriques, et... les vélos électriques même. Mais si, quelque part, nous pensons bien, mais on peut se poser des bonnes questions pour dire mais d'où viennent ces matières qui nous permettent d'avoir les voitures électriques.
Question... Et ce sont des entreprises occidentales qui sont présentes en RDC, qui profitent en fait. Parce que la population du Congo est très pauvre.
Oui, la population du Congo est très pauvre, mais riche. C'est une contradiction.
Complètement.
C'est une contradiction. Comment un pays, on peut l'estimer être riche, immensément riche, mais quelque part, on dit qu'il est pauvre.
Le pays est riche et la population est pauvre.
La population est pauvre, mais c'est inconcevable. On ne peut pas concevoir cette dualité contradictoire.
Et tout à l'heure, Jacques parlait des différents accords qui ont été signés. Je suppose que ces accords... ne sont pas respectés ou le dessous de ces accords, c'est justement pour la mainmise sur la richesse du sous-sol.
Le premier accord qui a été fait avec les Rwandais, celui du 23 mars, c'est pourquoi on les appelle les M23, parce qu'il y a les accords le 23 mars avec Joseph Kabila. Ces accords n'étaient pas en profit pour les profits du pays, plutôt pour Joseph Kabila. Ils cherchaient avoir les richesses, il cherchait à amasser tant de choses. Alors, raison pour laquelle il a fait ces accords pour lui-même, mais par contre, ça n'a pas apporté de bénéfices pour le pays. Et aujourd'hui, là, si vous allez en Kinshasa, vous essayez d'aller là où habite cet ancien président, vous direz que ce monsieur, c'est un grand voleur. D'ailleurs, l'Occident l'a même interdit de ne pas parcourir l'espace européen. Il se limite qu'en Afrique. Parce qu'une fois qu'il s'est fait attraper en Europe, en tout cas, il sera arrêté comme Jean-Pierre Bemba, je suppose. Donc, c'est pourquoi il n'ose pas, il se limite qu'en Afrique. Donc, les pays, la population ne bénéficie pas de cette richesse et elle y demeure pauvre. Et par contre, on a beaucoup de richesses qu'on peut faire, mais on ne bénéficie pas.
J'avais une autre question par rapport aux autres richesses que possède le Congo, qui ne sont pas des richesses matérielles, mais qui sont des richesses culturelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, parmi les richesses culturelles du Congo, nous avons premièrement la musique, la danse. On reconnaît les Congolais surtout par la musique et puis la danse aussi. La majorité des Congolais savent très bien danser et chanter aussi. Et il y a aussi notre fameux foufou. C'est la boule nationale, on appelle ça, c'est l'aliment, on le mange en fait, c'est la nourriture. Et c'est fait en base de tapioca, on les broie, il faut les broyer, et on les prépare avec de l'eau chaude, avec maïs. Ça crée vraiment une très bonne boule de foufou. C'est très consistant, donc quand tu le manges à 12 heures, je pense que tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim le soir.
Oui. C'est intéressant. Et vous, oui. Bon, on ne peut pas faire goûter aux auditeurs, mais
donc, voilà.
Nous, on espère bien goûter un jour.
Donc, il y a les foufous, il y a les patates douces, les feuilles de patates douces, il y a les feuilles de manioc, il y a les amarandes aussi, il y a les gombos que nous mangeons beaucoup. Et puis, il y a d'autres viandes que les Français mangent et nous aussi, nous les mangeons. Il y a aussi les chinchards. Et c'est sous forme de poisson, les chinchards. Et puis, il y a le poisson salé. On les mange aussi. Il y a aussi les chenilles. On mange les chenilles.
Préparées comment?
Oh ben, les chenilles sont préparées à plusieurs façons. Vous devez sortir toutes les saletés qui se trouvent à l'intérieur. Et tu peux les griller ou soit tu les fais en sauce tomate. Et puis il y a aussi les riz aussi, nous les mangeons beaucoup.
Et pour revenir un peu à votre parcours à vous, Jacques et Henri, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre départ de la République démocratique du Congo, ce qui vous a poussé à partir et comment ça s'est passé pour vous? Tout à l'heure, Henri, vous parliez d'un passeur qui vous a fait passer en France. Est-ce que c'est possible pour vous de nous parler de votre parcours?
Oui, bref, moi parlant, mon parcours est une histoire très longue, mais je pense les résumer en peu de mots. J'ai eu la chance d'avoir un passeur qui m'a aidé à rentrer jusqu'en France. Ce n'était pas dans mes idées qu'un jour que je peux me retrouver ici. Et je n'en avais même pas dans mes imaginations. Et ce passeur, il ne m'a jamais dit que je t'amène en France. Et ce monsieur m'a présenté un passeport de ressemblance qui m'a permis de rentrer en France à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.
Vous êtes arrivé en avion?
Oui, en avion.
Je peux retourner un peu dans les questions que tu avais posées. Il y a un problème de climatique.
Oui, un problème qui touche très fort la RDC.
Non, mais dans le monde, bientôt.
Oui,
là.
Dans le monde, oui.
Bientôt.
Oui, oui.
Bientôt. Maintenant, nous, C'est un pays de solution, là. Vous connaissez ? À propos de quoi ?
Non.
À propos, parce qu'on a des pays de grandes forêts.
Il y a beaucoup de forêts en RDC.
Oui, oui. Et puis, c'est l'unique pays qui possède l'Okapi.
Les problèmes que moi, je t'ai dit à propos de forêts, à propos... Parce que là, j'attends des informations. On s'est dit, bientôt là, c'est un problème climatique et tout. Mais nous, on a une petite solution pour ça. Mais vous ne pouvez pas vous laisser des Congolais qui meurent comme ça.
Il y a les solutions par rapport au problème climatique et le monde méprise ce qui se passe en ce moment, si je résume bien.
Ils étaient là déjà, ils étaient là au Congo, ils ont signé des accords à propos de notre forêt.
Ça représente quoi, les forêts, par rapport au territoire ? Tout à l'heure, Hugo, dans son témoignage, disait que la superficie du Congo, et par rapport à cette superficie, ça représente quoi, les forêts ? C'est énorme.
C'est très énorme, et puis il y a beaucoup de richesses aussi là-bas. Il y a, par exemple, il y a des animaux très rares, qui se trouve dans cette forêt-là. Et puis, elle est très bien sécurisée.
La forêt, elle fait 50 millions d'hectares.
Oui, c'est ça.
Donc, effectivement, pour la modulation du CO2, ça peut être très intéressant.
Très intéressant.
Oui, c'est ça. Et je vous ai dit quand même, il faut voir des choses dans une autre façon. Parce que là, on dit la richesse, mine, coltan, cuivre et tout. Maintenant, problème climatique.
Il y a aussi la forêt.
Il y a aussi la forêt, mais toujours à côté de l'Est, du Congo. Parce que nous sommes un pays solution dans tous les problèmes. Problème des richesses, problème des climatiques, on est là. On peut quand même nous vivre tranquillement.
Moi, je pense que sur ce que Jacques est en train de dire, il serait souhaitable que cette richesse soit utilisé avec beaucoup de respect et avec justice. Si aujourd'hui nous nous réunissions, on s'est dit, bon, c'est un pays qui a beaucoup de choses, on peut créer des entreprises, faire des grandes choses là-bas, et comme ça, on peut bénéficier tous de la même chose, au lieu de venir imposer et puis prendre et partir et maltraiter et massacrer le peuple. Cela n'est pas du tout digne, éthiquement parlant. Donc moi, c'est une supposition qui, en partant de son idée, c'est une supposition que je donne. Si un jour des gens voudraient que cela soit ainsi.
Claire, si tu veux intervenir.
Et je rajoute en ce sens que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça stagne, si j'ai bien compris, parce que effectivement. Tout le monde reconnaît qu'il y a des richesses et qu'on en a besoin et qu'elles doivent mériter et au Congo et peut-être les entreprises aussi elles-mêmes sont tout à fait attirées par ce genre de richesses qu'elles reconnaissent sans prendre en compte les conditions dramatiques que la population subit en violence. C'est un beau lapsus de dire en volant, parce que le vol est aussi une question. Et si j'entends aussi, dans le peu de discours médiatiques que j'entends, on dit que ces massacres-là sont dus à des groupes rebelles, c'est-à-dire par exemple au M23. Ce qui fait que ça, en façade, ça décharge un certain nombre de politiques ou politiquement correct de se dire « Ok, on prend nos responsabilités, on va faire une pression comme ils peuvent faire, on va faire un embargo sur ces richesses-là tant que des accords ne sont pas... » Enfin, il y a plusieurs façons de faire une pression internationale, notamment l'ONU peut avoir ce genre de pression qui ferait une espèce de pression pour mettre en place plus de paix. En restant positif, hein. Mais il se range derrière le fait que, bah oui, mais on n'y peut rien, c'est des massacres par des rebelles. Et personne ne se pose la question, mais qui arme ces rebelles ? Et donc, la situation, elle est... J'entends que personne prend vraiment en charge la responsabilité du massacre des civils qui sont, eux, à chaque fois, les plus grandes victimes. Et ça, c'est dramatique. C'est bien, ça va dans le sens de ce que vous nous expliquez.
Oui, moi, ça me fait très mal. Pourquoi ? Parce que même l'ONU, la communauté internationale, connaissent très bien l'histoire, connaissent très bien les problèmes, connaissent même le nombre de morts, même le nombre de femmes violées, le nombre des enfants qu'on utilise pour avoir les richesses, les travaux forcés à ces petits-enfants, mais ils n'en parlent pas.
Mais il y a eu, je ne suis pas spécialiste, mais à ma connaissance, il y a eu quand même une réglementation sur le diamant, je crois, ce serait à vérifier, hein, mais qui faisait une liste noire des pays sur lesquels on devait boycotter la provenance des diamants. Parce que certaines mines n'étaient éthiquement pas défendable du tout. Et l'ONU, je crois, en tout cas, il y a eu quelque chose qui a été fait. Sauf que, comme avec le jeu des vols, des rebelles, etc., selon ce qu'ils disent, on ne peut plus avoir de traçabilité sur d'où ça vient et qu'on se retrouve quand même avec des diamants qui sont sur le marché, on ne sait pas comment. Et donc là, c'est l'exemple d'une espèce de tentative qui a été faite de réglementer et de faire un boycott pour faire une pression. Alors, je suis d'accord que ce n'est pas du tout suffisant. Mais que tout de suite, même cette tentative-là, elles sont tout de suite déjouées parce qu'il y a un marché noir qui, tout à coup, est immense. Et que c'est difficile. Enfin, j'ai l'impression que le problème paraît assez inextricable à plein de niveaux aussi, parce qu'il y a beaucoup de corruption, de marchés noirs parallèlement, qui sont entretenus certainement par des puissances qui ont de l'argent et qui font un jeu de façade et de corruption par derrière. Enfin, tout ça, moi, ça me dépasse, mais il faut aussi souligner ces réalités-là, juste pour aller dans vos sens. Et il me semble que l'ONU ne fait pas rien de rien, mais que très vite, c'est assez biaisé aussi.
Et avant de terminer l'émission, j'aimerais poser des questions à Henri et Jacques sur qu'est-ce que vous aimeriez rajouter. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dit. On n'a de fait pas énormément parlé de votre histoire, de vos histoires personnelles, mais parce que tout ce que vous nous avez dit sur le Congo était passionnant. Qu'est-ce que vous aimeriez pour conclure l'émission ?
Oui, moi je pense que pour conclure ou dire un dernier mot, nous connaissons tous et tout ce qui se passe au Congo. Nous ne sommes plus ignorants, malgré que nous sommes sidérés par tout ce que nous avons dit, parce que c'est la vérité. Et la vérité est une lumière, et lorsque la lumière s'éclate, elle doit être vilipendée aussi aux autres. Non pas, elle ne doit pas rester enterrée, plutôt déterrée et faire parvenir aux autres, même si on n'ira pas dans les pays, mais au moins avoir l'idée de tout ce qui se passe au Congo, des massacres, des viols, et connaître les problèmes du pays, connaître la pourquoité du pourquoi du problème, la causalité de la cause du problème. À ce niveau-là, je pense que chacun de nous devrait avoir en lui la pensée, l'idée sur le peuple congolais, l'idée sur tout ce qui se passe au Congo. Si il y a des gens qui ont cette compassion, qui veulent aussi aider le pays, il y a des organisations, il y a la Croix-Rouge, il y a beaucoup des associations qui peuvent aussi vous aider à pouvoir parvenir votre aide. L'aide ne doit pas seulement être physique, mais aussi en priant pour ce peuple-là, en faisant parvenir l'information à ceux qui ne connaissent pas. C'est déjà un atout et ça profite pour les autres aussi. Et pour finir, je dirais comme je l'ai dit, tantôt, que la richesse, elle est là. Mais si nous l'utilisons avec beaucoup de respect et justice, je pense que nous aboutirons à la réussite et prospérer le monde et les autres mondes. Et de ce fait, on ne commettra plus de justice. Et plutôt de l'injustice, on ne commettra plus de violence. Et puis tout ça, la richesse sera légale. La richesse sera légitimée. Et si nous commettons le mal, nous empirons le mal au mal, nous ne réussirons pas à faire prospérer ces peuples, à faire développer ces peuples, plutôt à voir dans l'esprit que ces peuples, comme certains ont l'habitude de dire, sont des sous-hommes, sont des sous-développés. Et les enfants qui naissent de génération en génération auront dans l'esprit du Congo que ce sont des sous-hommes, c'est un pays qui n'est pas développé, ils n'ont rien, mais alors que c'est un État qui possède immensément de choses. Et si les enfants connaissent déjà un peu cette histoire, ils peuvent déjà avoir dans leur esprit que en dehors de la France, la RDC existe. Ils possèdent ça, ça, ça. Et grâce à cela, on a les téléphones. Grâce à cela, on a les ordinateurs. Grâce à cela, on a telle histoire. Il y a un auteur qui disait « Le peuple meurt parce qu'il est ignorant. L'ignorance nous tue. » Alors aujourd'hui, nous connaissons et faisons partie transmettons cette information à tout le monde, à nos enfants, à nos grands-pères, de sorte qu'ils les sachent. Merci beaucoup.
Merci à vous. Jacques,
oui, merci. Pour conclure, je peux quand même lui prendre seulement la parole la visite du pape à la République démocratique du Congo. Le pape l'avait dit, tous les Occidentaux, tous les pays européens, vous retirez les mains, vous retirez vos mains dans la République démocratique du Congo. Donc, moi, je dois finir pour ça. Merci.
Merci à vous. Merci. On va terminer en musique. Est-ce que, avant qu'on entende la musique, est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisqu'on va terminer cette émission avec cette musique, quelle est la signification, d'où elle vient?
Voilà, Indépendance Cha-Cha, c'est une chanson qui a été fondée par les Congolais, par les chanteurs congolais, les jours qu'on a eu l'indépendance en 1960. Donc c'est un chant qui exprime la joie. Après avoir été maltraité par les Belges, après avoir subi beaucoup de maltraitances, des souffrances, et cette indépendance a exalté notre joie. Et donc la chanson exprime la joie congolaise d'avoir été indépendant en 1960.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Indépendance. Cha-cha.
musique aussi.